Et beaucoup estiment que c'est le livre de la Bible, cet évangile selon Jean, qui est peut-être le plus accessible pour nous faire découvrir la personne de Jésus et la foi chrétienne. Alors j'aimerais vous lire quelques extraits ce matin du chapitre 7, qui parle de l'eau, qui parle de Pentecôte aussi. Donc chapitre 7. Versets 1 à 14. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. » « Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même. Non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête en disant « Où est-il ?» Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien. » D'autres disaient « Non, il égare la multitude. » Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Je reprends la lecture en verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Mais est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ?» Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et on arrête la lecture là. En France, on aime bien le mois de mai avec tous ces jours fériés. En plus, cette année, c'était les lundis, donc c'est l'idéal, le 1er mai, la fête du travail, le 8 mai, la fête de la victoire, l'ascension, et ce week-end, Pentecôte, une série de fêtes, de week-ends fériés, c'est très bien. Eh bien, les chapitres 5, 6, 7, 8 dans l'Évangile de Jean, c'est un peu comme ça. C'est une série de fêtes, des fêtes juives, pas tous le même mois, mais c'était des fêtes juives annuelles. C'était des rendez-vous incontournables pour le peuple juif où ils se rappelaient leur culture, leur identité. Et donc, toutes ces fêtes, dans Jean chapitre 5, 6, 7 et 8, Jean va parler de différentes fêtes. Et lors de ces fêtes, Jésus va dire ou faire quelque chose d'assez remarquable, d'étonnant, pour expliquer sa venue, sa mission, son identité. Et ici, ça se passe donc à la fête des cabanes, la fête des tabernacles. C'était une fête qui se déroulait en septembre. Souvent, c'est un peu la fête de la moisson. Mais de toutes les fêtes, c'était certainement la fête la plus festive, la plus appréciée, la plus détendue, la plus familiale. Lors de cette fête, en fait, le peuple commémorer la traversée du désert après la sortie d'Égypte et la manière que Dieu a pris soin du peuple toutes ces années où ils ont vécu comme des nomades sous tente dans le désert et Dieu a pris soin d'eux. Alors pour fêter ça, tout le monde venait à la ville de Jérusalem, la capitale, et la capitale se transformait en un camping, un grand camping pour toute la population entière du pays. Et tout le monde habitait pendant une semaine sous tente. Ils se faisaient des abris de fortune, ils se construisaient des petites tentes pour rappeler ce temps où leurs ancêtres vivaient sous tente et bénéficiaient de la protection et de la provision de Dieu. Alors, je connais certains de mes garçons qui seraient ravis de, voilà, d'habiter, de construire une cabane, d'habiter dans une semaine un peu à la rude. Et voilà, c'est ce qu'ils faisaient. C'était un temps joyeux. Certainement des rues bondées de monde, bondées du monde, des bouchons, certainement les boutiques très chères. Bref, tout ce qu'on aime quand on veut faire les vacances, n'est-ce pas? Voilà un peu le contexte, et Jésus va utiliser le symbolisme de cette fête pour expliquer qui il est, pourquoi il est venu, et pour provoquer une prise de décision parmi cette population. Et c'est ça que j'aimerais voir ce matin. Tout d'abord, l'invitation insolite de Jésus, et ensuite, les plusieurs réponses possibles. Voyons tout d'abord cette invitation extraordinaire, cette invitation insolite de Jésus. Donc il va à la fête. Les premiers jours de la fête, il fait profit de bas, puisqu'il y a quand même une opposition qui monte concernant sa personne. Je rappelle qu'il lui reste 6 mois à vivre. Il va être crucifié au Pâques suivant. Donc il fait profit de bas le premier début de la fête. Mais le dernier jour, le grand jour de la fête, là, il s'affiche publiquement. Et il se met debout, il crie à voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Alors, pour comprendre cette invitation, à quel point elle est insolite, il faut rappeler le sens de la fête des tabernacles. On a évoqué ça déjà un peu, mais je rappelle que les Juifs, lors de cette fête, ils se rappelaient la manière que Dieu les a conduits à travers le désert, pendant cette traversée, ces années d'errance dans le désert, où ils ont vécu sous tente. Et déjà, quand vous faites du camping, peut-être ça vous arrive, quand vous faites du camping, rapidement, quand il n'y a pas l'eau courante, quand il n'y a pas l'électricité, vous vous rendez compte à quel point vous êtes un peu à la merci des éléments. C'est très confortable d'avoir l'eau juste là, d'avoir la lumière au bout d'un interrupteur. Mais quand on est en camping, quand on est dans le désert, on n'a pas ça, on dépend vraiment de Dieu. Et donc, il se rappelait un peu cette dépendance sur Dieu. Mais surtout dans le désert, la chose qui est la plus importante, c'est l'eau. Et il se rappelait cette manière que Dieu a pourvu en eau à tout son peuple pendant toutes ces années au désert. Il y avait plusieurs fois, il n'y avait pas d'eau. Mais vous vous rappelez ces histoires bien connues de l'Ancien Testament où Moïse a frappé le rocher. Et le rocher, il y a une source qui a jailli du rocher lorsque Moïse l'a frappé pour abreuver tout le peuple. Et donc cette fête, c'était pour célébrer cette délivrance de Dieu dans le désert où il a donné de l'eau à son peuple. Et donc le dernier jour de la fête, c'était le grand jour, c'est comme le 25 décembre quand on parle de la période de Noël. Le 25 décembre, c'est le grand jour de Noël. Ici, le dernier jour de la fête, un peu comme bouquet final de célébration, il y avait un grand défilé. Ils allaient chercher de l'eau dans un puits au bord de la ville de Jérusalem. Et puis, ils ramenaient dans une cruche. Il y avait toute une procession, tout un défilé. Ils ramenaient cette eau dans le temple et ils le versaient en symbolisant voilà, toutes les manières, toute la joie que c'était d'avoir Dieu. Et il se rappelait de ce verset que sur Ézéchiel, faille nous lire et qui puis nous a été lu, vous puiserez de l'eau aux sources de salut. Et il se rappelait qu'ils avaient le salut en Dieu grâce à cette eau. Donc ce moment de la cérémonie, de ce moment de la fête de la semaine était le plus important. C'est un peu comme lorsque la torche olympique arrive dans le stade pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. C'est ce moment clé et c'est à ce moment-là que Jésus se lève, il se met debout, il crie à voix forte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous voyez ce que Jésus est en train de leur dire? Il dit finalement, toute votre fête, toute votre tradition, tout ce symbolisme, ben tout ça, ça parle de moi. Tout ça, depuis toutes ces années, depuis toute l'histoire de Moïse dans le désert, ça pointe vers moi. D'ailleurs, Jésus a fait quasiment la même chose pour les autres fêtes. Pour le sabbat, il a dit, c'est moi qui suis le vrai repos. Ou pour Pâques, il a dit, c'est moi qui suis le vrai agneau pascal. Et ici, pour la fête des tabernacles, avec cette cérémonie de la libation d'eau, vous pouvez lire tout ça encore sur Wikipédia, les Juifs le font encore. Il dit, c'est moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si c'était de nos jours, le 8 mai, défilé sur Champs-Élysées ou autre, si c'était la fête de la victoire, Jésus aurait dit, si quelqu'un vient à moi, il aura la paix et la victoire pour l'éternité. Ou si c'était le 1er mai, la fête du travail, qui est en quelque sorte une fête du repos, en tout cas une fête de la productivité sans l'exploitation, Jésus aurait dit, si quelqu'un vient à moi, il aurait un CDE, un contrat éternel, où il pourrait servir Dieu pour l'éternité dans le repos et dans la productivité. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas ne rien faire, mais on ne veut pas travailler dur, être exploité. On veut servir, on veut produire dans un cadre honorable et reposant. Et c'est ça que Jésus offre aussi d'autres versets de la Bible. Si Jésus allait un réveillant, eh bien, à minuit, il serait mis debout en disant, si quelqu'un vient à moi, il pourrait recommencer à zéro et avoir une nouvelle vie. Si Jésus était à une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il dirait, si quelqu'un vient à moi, il remporterait tous les médailles d'or. Voilà le genre de discours que Jésus, qu'il est en train de dire ici quand il dit que si quelqu'un vient à moi, qu'il boive. Alors vous commencez à comprendre pourquoi les huissiers, ces gendarmes qui étaient envoyés par les autorités pour arrêter Jésus, vous comprenez pourquoi ils sont revenus en disant, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Qu'est-ce qui permet à Jésus de dire de telles choses? Eh bien, selon la Bible, nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu, pour que Dieu soit notre source de vie continuelle, constante, comme cette eau qui était source pour le peuple. Et nous avons été créés pour ça, mais il y a eu une coupure, il y a eu une rupture avec Dieu, et maintenant nous nous trouvons comme un désert spirituel. Et cette soif dans le désert, cette errance dans le désert, c'est une image de la vie humaine finalement. Vous savez, quand vous faites une recherche sur Google, il complète vos phrases souvent, il vous propose des choses. Donc vous tapez « soif », vous commencez le « D », et vous verrez, soif d'affection, soif d'amour, soif d'argent, soif de bonheur, soif de pouvoir. D'ailleurs, pas soif d'eau, mais voilà. L'être humain a soif de toutes ces choses. Donc, ce langage, ce vocabulaire, on se retrouve nous-mêmes, on se reconnaît. Apparemment, la star de la télé-réalité Nabila a récemment dit « J'ai une soif terrible de réussir ». Malgré une réussite, malgré ce que beaucoup diraient, une réussite déjà, une soif terrible de réussir. Alors, nous partageons tous cette soif, nous connaissons cette soif existentielle. Alors, nous essayons par plusieurs manières et plusieurs choses d'étancher cette soif. Mais quand on ne revient pas à la source qui est Dieu, c'est comme si on essaie d'étancher notre soif en buvant du gasoil. Si vous êtes dans le désert, vous avez soif. On raconte qu'il y avait un bateau de naufragés et ils étaient dans le canot de sauvetage. Ils ont vu le baril d'eau, ils étaient tout contents, ils ont ouvert le baril d'eau et c'était du gasoil. Ils ont échangé le baril d'eau pour le baril d'un gasoil. Et ce que nous vivons. Où mon fils me rappelait que dans le livre de Tintin, Capitaine Haddock, toujours dans le désert, il va boire du whisky au lieu de boire de l'eau. Ça n'aide pas la situation. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Dans cette soif d'affection, soif d'amour, soif de pouvoir, on va aller puiser dans des choses qui sont comme du gasoil ou comme du whisky et qui empirent notre situation. Et finalement, ce que nous faisons, c'est pas bon et ce n'est pas bien. Donc, par exemple, une fille va se mettre dans une relation avec un garçon qu'elle sait être mauvaise pour elle, mais il y a une soif d'amour, une soif d'affection. Donc, elle va se mettre en danger. Ou bien un élève, soif de réussir, il va tricher sur l'examen pour réussir. Donc, c'est bien de réussir, mais à quel prix? Ou un employé, ou une entreprise va avoir soif d'argent, donc ils vont commencer à exploiter ou à maltraiter les employés. Vous voyez comment cette soif peut produire des mauvais comportements, même des comportements coupables. Et c'est là où Jésus apporte la réponse. C'est là où Jésus vient et il va donner sa vie. Il va payer à notre place. Il va prendre nos culpabilités, nos bêtises. Il va les prendre sur lui et mourir pour nous à la croix. Il va vivre cette rupture, cette coupure qui existait entre Dieu. Lui va le vivre lui-même à notre place à la croix. Et d'ailleurs, la Bible est claire, Jésus, il est comme ce rocher qui a été frappé dans le désert. Le coup de la colère de Dieu frappe, non pas nous, mais Jésus à notre place. C'est ça la croix. Jésus devient ce rocher qui est frappé pour que l'eau jaillit du rocher. Et lorsque Jésus est frappé, crucifié, de sa mort jaillit notre vie. Et il va remplacer le vide qui est en nous, toutes ces soifs, il va le remplacer avec sa présence. Et c'est ça sa promesse ici, que cette eau vive qui coule de notre sein, c'est, il dit, le verset 10, c'est le Saint-Esprit qui n'avait pas été encore donné comme ça a été à Pentecôte. Nous avons lu ces versets en acte. Pentecôte, c'est le plein accomplissement des paroles de Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en nous et qui comble ce vide, qui comble cette soif et qui nous permet de se savoir aimer et d'aimer les autres, comme Soazic en a si bien témoigné tout à l'heure. Et le comble, c'est non seulement Jésus vient nous désaltérer avec une source d'eau vive, mais ce verset est fort, ça dit que cette source devient en nous une source qui jaillit pour d'autres. Et donc, ce à quoi Jésus nous invite, c'est une vie qui déborde pour les autres. Et ça, c'est tout le contraire de cette soif qui nous tracasse, qui nous pénalise. Cette vie qui déborde pour les autres, c'est une manière très différente de cette manière égoïste de chercher toujours la réussite ou l'affection. Même au début du chapitre, c'est un peu triste, Jésus et ses propres frères se sont moqués de lui. Ils ont dit, vas-y Jésus à la fête, fais des choses impressionnantes, fais-toi aimer, deviens star à la fête, tu peux le faire. Ses frères avaient tout intérêt que Jésus devienne célèbre parce que c'était ses frères. Donc eux aussi, ils avaient cette soif de popularité. Mais Jésus n'a pas besoin de ça. Il est lui-même une fontaine et sa vie jaillit pour les autres. Et quand il vit en nous, nous pouvons vivre comme lui. Donc vous commencez à comprendre cette invitation insolite de Jésus où au cœur de cette fête qui parle de l'eau, lui-même invite les gens à lui. Et boire, c'est l'image de la foi. Quand on vient à Jésus et qu'on place notre confiance en lui, c'est comme un assoiffé qui trouve l'oasis, qui trouve un puits et qui boit. Il n'y a rien de plus satisfaisant, de merveilleux. Maintenant, voyons les plusieurs réponses possibles à cette invitation insolite. Évidemment, quelqu'un qui dit de telles choses, un homme qui dit de telles choses, c'est obligé que ça provoque des réactions. Et le but de Jean dans ce chapitre notamment, c'est de nous mettre dans cette impossibilité de rester neutre face à Jésus, face à de tels propos. Un homme qui dit ça, je rappelle mes exemples, si quelqu'un disait ça, l'équivalent au réveillant ou aux Jeux Olympiques ou à la fête de la victoire, ce serait choquant. Et c'est comme ça que les gens l'ont pris. Plusieurs ont dit, mais en parlant comme ça, verset 12, il égare la multitude. D'autres disaient, mais non, c'est quand même un genre, quelqu'un de bien. Et dans les versets 40 à 44, c'est tout le dilemme de ces gens à la fête. Que faire d'un tel homme qui parle comme ça? En verset 20, quelqu'un va dire, mais il a un démon, c'est pas possible, il parle comme ça. Mais d'autres sont quand même attirés et touchés, et certaines croient en lui. Donc il y a ce débat entre le peuple, mais c'est le Christ, et il n'y a que le Christ qui peut parler comme ça. Et d'autres disent, mais non, c'est un homme, et un homme qui parle comme ça, c'est mauvais. Et donc, verset 43, « Et il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. » Et cette division perdure encore aujourd'hui. Que faire de Jésus? Est-ce que c'est une mauvaise influence sur notre société ou bien est-ce l'envoyé de Dieu qui nous apporte le salut? Et c'est ce chapitre qui a grandement inspiré une réflexion qui est devenue assez connue, assez célèbre, un argument en faveur de la foi chrétienne qui était avancé par ce prof de littérature à Oxford qui s'appelle C.S. Lewis. Il dit, des passages comme ça, Jésus, il nous pose un dilemme. Et lui-même, il a dit, c'est un trilemme en fait. C'est un trilemme. Quelqu'un qui parle comme ça, qui lance de telles invitations, qui lance de telles affirmations, qu'est-ce qu'on fait de lui? Comment penser? Que penser? Soit il est fou, soit c'est un dérangé mental, soit il est fou et dans ce cas, il faut l'enfermer. Soit il n'est pas fou, il sait très bien ce qu'il fait, mais alors c'est un méchant, c'est un rusé, il est en train de manipuler les gens. Donc c'est pas bien d'inviter des gens à le suivre comme ça, alors qu'il ne peut rien offrir. C'est mal, c'est méchant. Donc soit c'est un fou, il ne sait pas ce qu'il dit, alors il faut complètement l'ignorer, l'oublier. Soit c'est un méchant, alors il faut l'arrêter, il faut le tuer. Ou bien, soit il dit vrai. S'il dit vrai, c'est qu'il est Dieu, il faut l'adorer, il faut le suivre. Et ça, il me semble, c'est les plusieurs réponses possibles. En tout cas, à l'époque, c'était les seules réponses possibles. Et c'est ça qui a provoqué cette division. Mais quand vous creusez un peu, ok, soit il est fou, soit il est méchant, soit il est vrai. Alors, considérant ces options, s'il est fou, comment expliquer la pertinence de ses paroles? Comment expliquer que des jeunes veulent encore le suivre aujourd'hui? Ou ces paroles de Napoléon vers la fin de sa vie. « Je cherche en vain dans l'histoire pour y trouver le semblable de Jésus-Christ. Ou quoi que ce soit qui approche de l'Évangile. Il est vraiment un être à part. Ses idées et ses sentiments, la vérité qu'il annonce, sa manière de convaincre, ne s'expliquent ni par l'organisation humaine, ni par la nature des choses. » Donc beaucoup ont été quand même frappés par la sagesse, par la bonté de ses enseignements, de sa vie. Alors c'est difficile à dire, c'est un fou, il a un démon, parce que à côté de ça, il ne manifeste pas les preuves de quelqu'un qui est fou. Alors on peut dire, d'accord, c'est un méchant, il est vraiment néfaste pour notre monde, il a manipulé les gens, il a menti, il a dit aux gens de le suivre alors qu'il ne pouvait rien offrir. Et c'est comme ça que beaucoup l'ont pris à son époque. De parler comme ça, c'est blasphème, c'est blasphématoire. Il se prend pour Dieu. Il dit qu'il peut offrir des choses que Dieu seul peut offrir. Alors, ce qui a même conduit quelque part à la mort de Jésus. Mais creusez pour vous-même la vie de Jésus. Est-ce qu'il était méchant? Quand vous commencez à voir la compassion qu'il avait pour les foules, il venait de nourrir une foule, à partager le pain pour 5000 hommes. Il venait de guérir un paralytique. Et on voit un homme qui est rempli de bonté et de compassion et qui a toujours eu un message d'amour. Et son Saint-Esprit qui habite en nous, comme nous avons vu ce matin, nous pousse à l'unité et à l'amour. Alors, difficile à dire que Jésus était purement méchant. Et à la croix, et c'est la plus grande preuve de son amour, il meurt pour ses ennemis, il pardonne ceux qui sont contre lui. Donc il est difficile de conclure qu'il était méchant. Alors ça reste une autre possibilité, c'est que Jésus disait bien être ce qu'il était, à savoir Dieu, Dieu incarné, Dieu le Sauveur, le Messie, venu pour nous chercher, nous sauver, et on peut faire confiance à ses invitations. Alors, où caser cet homme? Dans l'asile des fous, en prison, ou bien sur le trône de notre vie? Quelle réponse allez-vous donner à cette invitation? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a trouvé une autre possibilité, c'est de caser parmi les légendes, comme le roi Arthur, ou Robin des Bois, ou Superman. Voilà, c'est des belles histoires, mais c'est juste des écrits, c'est de la fiction. Mais c'est pour ça que Jean a écrit cet évangile, c'est pour ça qu'il y a eu des personnes qui ont vécu avec Jésus et qui peuvent ensuite raconter ce qu'ils ont vu. Ils l'ont vu faire des choses, ils l'ont vu dire des choses, ils ont entendu dire des choses. Et ils nous attestent ces choses pour que nous puissions être confiants que Jésus n'est pas une légende et ce qu'il a fait, c'était vrai. Je termine avec le cas de ses frères, je trouve. Au début de ce chapitre, on apprend que ses propres frères ne croyaient pas en lui. Donc Marie n'est pas restée vierge, donc Jésus a eu des frères et des sœurs même. Et donc ses propres frères ne croyant pas en lui, et au début du chapitre, se moquent un peu de lui, ils disaient « Vas-y, monte à la fête !» La bonne nouvelle, c'est que ses frères ont changé d'avis par la suite. Parce que le jour de Pentecôte, notamment, si vous lisez Actes chapitre 1, on trouve les frères de Jésus, la mère de Jésus, les frères de Jésus, avec les apôtres, en train de prier et en train d'attendre cette promesse du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que sa propre famille a fini par croire en lui. Sa propre famille a reconnu la validité de cette invitation, a accepté cette invitation insolite de venir à lui. Et ça, il faut faire fort que sa propre famille, ceux qui nous connaissent le mieux, ceux qui nous ont vu vivre jour après jour, soient eux-mêmes convaincus que Jésus était Dieu, qu'il était le Sauveur, qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Alors, ses frères qui se moquaient de lui avant, ils ont changé d'avis, ils ont cru en lui. Et c'est encore son invitation à chacun de nous ce matin d'étancher notre soif, la soif de notre cœur en lui, en pensant à ce qu'il a fait, l'amour qu'il a manifesté pour nous à la croix, qu'il est ressuscité. On a eu une image de ça dans le baptême de Soazic. Elle en a témoigné, comment elle a trouvé elle-même cet amour, cette affection, surtout en Dieu, pour faire face à la vie. Et c'est mon invitation à chacun de vous encore ce matin. Nous terminons dans la prière. Seigneur, nous voulons chacun puiser de l'eau, source de salut qui est en Jésus-Christ. Nous te remercions pour le témoignage que nous avons eu de Soazic et nous te remercions pour le témoignage de Jean et des frères de Jésus qui eux aussi ont été convaincus par son invitation, par sa personne. Je te prie que tu attires des personnes à toi encore ce matin, qui puissent boire, qui puissent croire dans le message, le beau message de l'Évangile qui transforme encore les vies. Merci pour tout ce culte, toute cette journée. Et nous te prions de nous aider maintenant à vivre cet amour, cette unité que donne le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.